J'ai toujours été un peu le mal-aimé du podcast.
Et si on...
Non, c'est faux, c'est moi le mal-aimé du podcast. Et... Chaque fois, je me fais des glingues.
Et si on balançait les, l'identité de Jean?
Les Daft Punk. Alors. Banksy.
Les Daft Punk et Banksy sont la même personne.
Alien et les garçons, épisode 18. Bienvenue dans toi, mon meilleur.
Bienvenue à bord d'Hélène et les garçons. Bonjour tout le monde.
Salut Thomas.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui, Vic et Florian?
Salut.
Ça va. On t'a pas dit salut, on a dit ça va.
Salut.
Ok, on va laisser Vic de côté pour le début de l'intro.
Salut. C'est contagieux.
Alors vous êtes contents, ça va?
On ça se va, retrouve. On est très contents. Je suis très content de refaire un épisode normal pour une fois.
Et bah, c'est exactement ça que j'allais vous dire, parce qu'on se refait un épisode à peu près normal après l'épisode précédent qui était un spécial Exis Planet, un épisode vraiment sympathique. L'épisode encore avant qui était supposément classique, mais Florian l'avait un peu foutu en l'air avec une chronique en 3-4 fois et c'était assez rigolo.
Fois, j'ai même niqué le podcast pendant ma chronique tout court. Quoi.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vas pas faire de chronique du coup.
Ah ouais? Ah carrément? Non, c'est ma punition, c'est ça?
Puni.
Ah là là.
T'es puni.
Non, si, mais tu passeras en dernier.
Ok, ça me va.
Exactement. Et donc aujourd'hui, épisode classique avec thématique identité qui nous a été donnée par Agathe. On dit merci qui?
Merci Agathe.
C'est bien, j'aime bien que vous faites des enfants, j'aime beaucoup. C'est depuis l'épisode nationalisme qu'on s'est rendu compte que vous pouviez faire ça et c'est vraiment un plaisir.
Il y a un sacré potentiel en fait de jouer l'enfant. Ouais.
Agathe nous a donc proposé la thématique identité. Si vous voulez nous proposer une thématique, eh bien vous pouvez également le faire sur Facebook, sur Twitter, par mail, par tout ce que vous voulez.
Mais du coup, nous proposez pas identité parce que c'est déjà pris.
Évidemment.
Et ni nationalisme. Alors faisons la liste. Posons-nous une seconde.
Proposez-nous ce que vous voulez. Et c'est les voilà, il y a plusieurs. Là, on a une petite. On va dire, il y a une queue. Maintenant, on peut parler d'une queue.
Ah bah, oui, il y a une queue.
Une petite quéquette.
Je reviens sur ça parce que tu parlais des médiums à travers lesquels on pouvait nous envoyer des thèmes. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une boîte postale? Ça serait rigolo, non?
Ah non.
Qu'on nous envoie du courrier.
On a déjà parlé du service postal d'Alien et les garçons.
Et alors?
Et alors, on est en train de le développer. Ah. Moi, je suis en train de plancher sur des timbres, là. On
va sur des timbres, timbres.
Ouais,
sur des timbres.
Oui, on va se faire des timbres. On peut se faire des timbres personnalisés. Et ça, ce serait vachement la classe.
On va déjà faire cet épisode.
On va déjà essayer de finir cet épisode correctement. Parce que là, on voulait faire. Là, il est assez tôt dans la journée, pour tout vous dire. Il est 17h41 au moment où on enregistre. Et il semblerait que nous soyons déjà au Rhum. Oui, normalement, on fait pas partie de ces podcasts qui picolent comme des sauvageons et tout. On est des gens plutôt sérieux.
Ça nous est arrivé par le passé, mais c'est de l'histoire ancienne.
C'était des hors-série. C'était des hors-série à chaque fois.
Tous les premiers épisodes. Tous les premiers épisodes, on était à peu près.
Oui, mais c'était pour se donner de la confiance.
Voilà. C'est gratuit quoi, c'est vraiment violent et gratuit. Mais bon, on va se tenir. Dans le même temps, on mange un peu une poule au chocolat en promotion après Pâques. Voilà. Donc on peut se dire que ça va un peu compenser, ça va nous remplir le bidon, ça va le faire. Voilà, donc on s'est parlé un petit peu d'identité. Ça vous a plu comme thématique ou bof?
Moi j'ai bien aimé. Moi.
Ouais, très inspirant.
Florian, t'as bien aimé?
J'ai été inspiré assez tôt, j'ai écrit assez tôt, pas sur ma première idée. J'ai mis longtemps à l'écrire.
Et c'est quoi ta première idée?
C'est un monde inspiré de Rick et Morty. Je dirais.
Mm-hmm. Plutôt de Rick ou plutôt de Morty?
Plutôt Rick.
Plutôt
forcément.
Rick, évidemment.
J'ai toujours pas regardé la saison 3.
Mais surtout qu'on en a la 4.
Ah bah.
Alors, recommandation à Aline et les garçons, ça fait longtemps. Rick and Morty, on est tous les trois super fans. Vic, un peu moins, visiblement.
Bah, moi, j'ai beaucoup aimé les deux premières.
Super série.
Est-ce qu'on peut encore recommander Rick et Morty? Est-ce que, genre, c'est pas devenu mainstream?
On peut même recommander Rick et Morto ou un truc comme ça.
Oh là, ok, d'accord, pourquoi pas. Faisons ça si tu le souhaites.
Non, vraiment, c'est une super série. Si vous n'aimez pas.
Les autres séries, regardez.
Les autres séries, regardez celle-ci, vous serez peut-être moins déçus.
Peut-être un peu moins mainstream. Lisez la BD, effectivement, que j'ai commencé à acheter, qui est vraiment pas mal.
Ouais, j'ai commencé à acheter.
C'est moins bien.
Non, j'en ai acheté plusieurs et tout. Il y en a plein. J'en ai acheté trois.
Il a mis l'argent sur un peu elle. Ok, j'ai la moitié, elle coûte quand même 7 euros.
Non, j'en ai acheté trois.
Je pense qu'on a dévié de notre sujet.
Ah oui,
thématique
vrai.
Identité, disions-nous.
Oui.
Vic, avant.
Bah oui, mais c'est
toi. Toi, ça t'a plu? Ça t'a inspiré? De quoi tu vas nous parler?
J'ai trouvé ça inspirant. Je me suis dit, thématique identité, comment je vais faire? J'ai essayé de me placer dans la peau de quelqu'un d'autre, donc de vous. Je me suis dit, si j'étais Thomas, qu'est-ce que j'écrirais? Je me suis dit, non, ça, c'est pas bien.
Non,
si j'étais Florian, qu'est-ce que. Et du coup, après, je suis revenu à ma propre identité. Et là, c'était de la grosse qualité.
C'était prix Hugo là, directement, prix Nebula. Ça, ouais, prix,
tout est possible. Prix Franprix.
Prix Pulitzer, Franprix, prise de tête.
Ouais, génial.
Prise unique.
Non, j'ai trouvé ça. Non, c'était cool. J'ai bien aimé. Travailler sur ce.
Personne n'a dit Priapis, mais alors on peut enchaîner de manière interdite, c'est bien.
Okay. C'est pas grave, on a coupé Vic, mais c'est pas grave.
Et ta chronique, Vic?
Ma chronique, ça va être l'interview d'un simple d'esprit. sur qu'on l'interroge sur le plus grand tueur des galaxies.
D'accord. Est-ce que il s'appelle Patrick, le simple d'esprit?
Non, il s'appelle Jonathan.
D'accord.
Patrick, c'était le créateur dans une de ses chroniques.
Oui, qui était lui-même simple d'esprit. Parce
il
n'était
pas simple d'esprit. Ah, il était
banal.
Quelqu'un qui s'ennuyait et qui était banal. Ouais.
Oui. Ok, autant pour moi. J'ai été un petit peu dur avec
Patrick. Et toi, Thomas?
Et moi, Florian, je vais vous parler d'un.
On ne fait pas ça dans la vraie vie.
On ne s'interpelle pas comme ça.
Dis-moi, Vic. Oui, Florian. J'ai mélangé les noms. Oui. C'est pas grave. Moi, ma chronique va vous parler de transhumanisme dans un état dictatorial.
Wow.
C'est-à-dire que tu prends du transhumanisme qui est un sujet intéressant, tu prends une dictature qui est un sujet intéressant, tu mélanges les deux, ça fait un sujet hyper intéressant.
Mais j'ai l'impression que tu fais ça à chaque chronique, à peu près.
En fait, c'est ma botte secrète.
C'est un peu quand genre, t'as la flemme, tu fais ça quoi.
Comment ça s'appelle? Il y a un épisode de South Park où ils se moquent de Family Guy. Là, c'est une autre série qui est très bien, mais moins bien que Rick and Morty même. Et en fait, vu que c'est un peu n'importe quoi Family Guy, ils imaginaient que les auteurs de Family Guy étaient des lamentins,
oui, c'est ça. Ouais,
hasard, qui piochaient au hasard des mots,
bien.
Et ça faisait une série à la fin. Et ça, c'est un peu ce que j'ai fait.
Je suis sûr que les auteurs de Family Guy ont bien aimé.
Oui, je pense
que ça a dû les faire
être comparé, bah ouais.
C'est assez Family Guy en plus, comme idée.
Ouais, carrément. Mmh. Bravo. Et voilà, et c'est intéressant tout ce qu'on va se raconter,
donc,
n'est-ce pas?
Technopolitique, Rick and Morty et puis simple d'esprit.
Et on conclura avec
le fameux
quiz de Florian qu'on attend tous depuis.
Dont on attend le retour.
Oui, on attend le retour parce que c'est le quiz de Vic.
J'ai un peu l'impression parce qu'effectivement ton quiz était très 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 bien.
Pour tous les nouveaux auditeurs qui se demandent si on a des problèmes d'élocution concernant le mot quiz, la réponse est oui. Non, la réponse est non, évidemment. En fait, les gens font des quiz, nous on fait des quiz. C'est toute une stratégie, une élaboration artistique qui se développe. On ne va pas évoquer ça maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais faites-nous confiance, c'est vraiment très sérieux.
Et si vous ne vous posiez pas cette question, vous avez quand même la réponse.
On va commencer, mais en fait pas tout de suite, parce qu'on va d'abord faire un portrait chinois des glingos.
C'est le grand retour du portrait chinois des glingos.
Le retour du portrait chinois des glingos.
Il manquait un peu quand même.
Ouais, mais c'est à nouveau, je pense qu'on est les seuls à qui ça manque, mais c'est pas grave. Je vais vous inviter avant de
à casser la poule.
Oui, on va casser la poule.
Parce qu'il faut effectivement signaler.
Il faut effectivement signaler
à tous les auditeurs que nous avons une poule en chocolat, car c'est de l'époque, c'est de la période.
Oui, parce qu'en fait, on enregistre juste après Pâques et on est radin, et du coup, la poule était à moins 25%. Voilà ce qui s'est passé.
C'est maintenant un poulet sans tête.
Oui, c'est un poulet sans tête. Servez-vous, donc mangez un petit peu, et je vais vous demander qu'est-ce que c'est que le portrait chinois des glingos. Vous le savez très bien, c'est un moyen ludique et sympathique de faire connaissance tous ensemble.
Et ça tombe bien pour un épisode d'identité, de faire connaissance, de révéler un peu plus qui nous sommes.
C'est la des choses quand même. Bon sang, je vais vous demander de me donner votre année totem. Ouh. Année de l'histoire, quand vous voulez. Ça peut
une
être
année de l'histoire, même quand on n'était pas né.
Oui, oui, ou même dans le turfus, si tu veux, Psartec. ça peut être 1515 Marignan, ça peut être. Ce que vous voulez, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais pas trop non plus, ouais, parce
moi,
que
moi, je
crois,
moi, je crois que je l'ai. Moi, je crois que l'ai. Je pense que j'ai même fait une chronique là-dessus, je dirais 1969. Et je fais partie de ces gens qui disent 1900. Donc 1969.
T'es quelqu'un de sérieux.
C'est ça. Premier pas de l'homme sur la lune, tout ça.
Ça se tient. C'est pour ça ou pour autre chose? Non, juste
non
pour
c'est
ça.
Exactement pour ça.
C'est bien, c'est une bonne année musicale.
Oui, je trouve, c'est plutôt pas mal.
Ok.
Vic?
Et en quoi ça te définit toi, juste comme ça?
Parce que je suis déjà allé sur la lune.
Ah oui, ça se tient. Non, mais attends pour moi, j'avais zappé.
T'y es déjà allé, t'as même laissé des astronautes là-bas.
Oui, tout à fait.
Rappel, épisode 4, Uchronie.
C'est le 4 ? Ouais, tu te rappelles tellement bien.
Wow. Non, je me rappelle juste de celui-là parce que c'est mon préf.
C'est ton préf ?
Ouais.
Oui, c'était il y a longtemps, c'était l'épisode 4, on a oublié déjà.
On est vieux maintenant. Wow.
On est vieux. Bah, moi, j'ai des poils de barbe blanc.
C'est vrai.
Je ne parle pas de ça, mais on n'est pas obligé d'en parler. Vic.
Ah si, on se révèle, on a dit.
On se révèle, ouais, mais en parlant. Non, pas les poils de barbe.
On ne révèle pas nos physiques.
Vic, donne-nous ton année totem pour le portrait chinois des glingos, s'il te plaît.
Parmi toutes les années disponibles à ma disponibilité, j'ai choisi l'année 2000.
Ouais, 2000, ouais, excellente année 2000.
Ouais, l'année 2000, parce que le bug de l'an 2000, et je me rappelle quand j'étais gamin au passage en l'an 2000, le bug de l'an 2000 annonçait, toutes les théories et toutes les qui ont été faites là-dessus, comme quoi tous les ordinateurs allaient merder les horloges, etc.
Ça faisait
un peu peur, on faisait un peu calculote quand même.
Hein. Moi, ça allait parce que j'étais très jeune, mais.
Justement, on avait quel âge? 10 ans?
Ouais, non, à peu près.
13 ans,
plus,
moi j'avais 13 ans, moi.
Moi j'avais 13 ans aussi.
Et c'est vrai que je voyais autour de moi toutes les grandes personnes. Je crois qu'on l'avait déjà
identité.
Fait.
Okay.
Pardon, toutes les vieilles personnes et tout qui étaient en train de flipper à la télé, on en parlait des magnétoscopes et tout. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que nos magnétoscopes ils pètent un câble, tu vois quoi.
Mais c'est sympa, c'est clair. Tu te disais ça, c'est super, mais c'est mon année, c'est pas la tienne.
Donc en fait, vas-y, raconte-nous.
Bah non, j'ai plus envie. Non, mais bref, enfin, je trouvais ça fascinant de se dire qu'on a vécu le passage à un siècle à l'ère de, ou au premier siècle où il y avait des ordinateurs. C'était même le passage à un millénaire. Oui, c'était 2000 ans, mais bon. Ouais. Mais en tout cas, sur ce bug.
Très bonne manière de dire.
Voilà, et du coup, je trouve ça sympa d'avoir réussi à faire un changement, d'être là, une génération qui a vécu un changement de siècle, un changement de millénaire. C'est quand même pas donné à tout le monde.
C'est pas donné. Du coup, c'était quand même 2001, mais on va poursuivre. Mais j'aime bien quand même 2000, parce que 2001, c'est un peu notre. 2000, c'est un peu notre. Plus 2001, c'est pris par du millénaire au-dessus de l'espace.
Ouais.
C'est compliqué.
Non, mais voilà, il y a plein de grands personnages de l'histoire, des Napoléons, des machins, ils n'ont pas vécu de passage. Nous, oui. Donc,
effectivement, c'est vrai. C'est vrai.
Il y en a quand même pas mal qui ont. Ouais, c'est pas faux. Bah. Après, il y a Optique 2000 aussi, bon, c'est peut-être autre chose, mais ouais, vu que tu portes des lunettes, bon, bref. Bah, merci pour cette. Vraiment voilà. Intéressant.
Et toi, merci. Alors, ton année ?
Moi, c'est plutôt. Moi, j'aurais dit 1967. Je ne suis pas très loin de Florian, parce que je suis pas loin de Florian dans la vie, et on est voisins. Et parce qu'en fait c'est le Summer of Love, vous savez, c'est l'année où les hippies ont explosé, c'est musicalement, c'est la contre-culture, là vous voyez, c'est Thomas Pynchon, vous voyez pas là, mais je
il est super, il est en train de remuer les épaules et bouger son petit body.
Et ouais, du coup je pense que je suis plutôt je me vois bien à San Francisco en 67. Super, okay. Mon année totem c'est 1967. Okay. En plus je suis un putain de hippie, vous me le disiez vous-même l'épisode précédent.
Bien sûr,
ouais, c'est vrai.
Très bien. Et donc je pense que là on a fait beaucoup plus connaissance avec ce superbe portrait chinois des Gringos.
Surtout que t'as distillé au fur et à mesure le fait que Vic avait des lunettes. Ouais. Je sais plus ce que t'as distillé d'autre aussi.
Bah, qu'on était voisins.
T'as distillé aussi qu'on était voisins alors qu'en fait pas du tout.
Oui, tout ça est une.
Alors que moi j'ai pas de lunettes. D'ailleurs j'ai pas du tout.
D'ailleurs tu n'es même pas présent.
Non.
Waouh, il l'a fait disparaître. C'est même pas en post-prod, incroyable.
Non, c'est vrai, c'est super.
Super. Est-ce que vous voulez qu'on commence ou on continue à faire n'importe quoi ?
Bon, bah, on va se lancer. Hein.
Ouais, j'ai voulu vous laisser faire. Erreur.
Bah non, mais bien sûr que oui. Erreur.
Ok, on arrête tout de suite. On arrête de manger du chocolat, on arrête de boire du rhum et on va commencer tout de suite avec ma chronique qui va parler d'un transhumanisme dans un état dictatorial.
Superbe, on est pressé.
Ce sera pas la meilleure chronique, mais vas-y.
L'autre.
Enquête de BioBoost.
Bienvenue, voyageur. Je lis à la courbure de ton dos que la route a été longue et à ton visage blême et creusé qu'elle a été dangereuse. Assis-toi donc à ma table et partageons une cervoise. La compagnie d'un étranger ne me dérange pas, au contraire. J'ai la palabre facile et quelque chose me dit qu'à l'inverse, tu es plutôt du genre taciturne. Alors prends place et laisse-moi te parler de cette contrée, cette curieuse contrée qu'est la mienne. Tout a commencé il y a bien longtemps. Le monde était encore un endroit tranquille et chacun coulait des jours paisibles. Rien ne changeait, ou du moins, le monde changeait tout doucement, mais pour nous autres, les gens simples, c'est comme s'il restait le même. Évidemment, ça ne pouvait pas durer. Nous avons été rattrapés par le progrès. L'essor de la science de l'époque a favorisé l'apparition de BioBoost, commercialisé par de grandes entreprises. Ça vous dit quelque chose ce genre de truc ? Des pilules qui vous rendent meilleur, qui développent vos capacités cognitives et physiques, qui améliorent vos organes. Même vous qui venez de loin en avez entendu parler, je suis sûr. Avec les BioBoosts, il était désormais possible de devenir plus fort, plus intelligent, plus habile, simplement à condition d'avoir assez d'argent pour se les payer. Et justement, très peu de personnes disposaient des ressources financières nécessaires. En l'espace de quelques années, une poignée de fortunés étaient devenus des demi-dieux quand nous autres, le commun des mortels, ne pouvions que constater le fossé terrible qui s'était creusé au sein même de notre société. Les inégalités économiques passaient encore, mais quand elles sont devenues physiques, mentales, quasiment existentielles, là, ce n'était plus possible. Alors une révolte a éclaté. Cette révolte s'est transformée en révolution, et un homme fort a été mis au pouvoir. Le maître tenait maintenant la région d'une main ferme et son projet était clair, mieux répartir les richesses et mieux répartir les BioBoosts. La première mesure du maître a été de pucer tous les sujets de la région. L'objectif était de pouvoir mesurer en temps réel les capacités de tout le monde et de détecter les fraudeurs qui seraient tentés d'acheter des BioBoosts au marché noir. Avec ces puces, chacun avait aussi accès à une fiche présentant ses facultés physiques et mentales, force, intelligence, santé, talents divers et variés. La puce était même capable de savoir si vous saviez ou pas faire du tricot ou jouer du tambour par exemple. Dans un second temps, le maître a mis en place un système pour redistribuer les BioBoosts. Ce système est bien entendu basé sur le mérite. tous ceux qui rendent des services, qu'ils soient civiques, sociaux ou autres, se verraient attribuer un certain nombre de points qu'ils pourraient échanger contre des bio-boosts. Plus la tâche accomplie est difficile ou dangereuse, plus le nombre de points reçus est important. Les sujets modèles reçoivent donc plus de points en aidant des vieillards à chasser les rats de leur cave ou en portant des paquets au village d'à côté. Ces points s'appellent les points d'excellence, aussi raccourcis en PX. Et avec suffisamment de PX, il est donc possible de débloquer des bio-boosts pour devenir plus fort, plus habile ou plus intelligent, ou pour se voir inculquer instantanément des talents et des savoir-faire. La plupart des gens ont continué à mener une vie normale, accumulant assez peu de PX, mais certains ont commencé à se réunir sous forme de petits groupes de 4 à 6 personnes et à se mettre en quête de services à rendre pour accumuler un maximum de PX. Ces gens-là, on les appelle des prospecteurs de jobs, ou des PJ. On en croise parfois sur les routes, ils aident les gens, chassent les criminels et accomplissent toutes sortes de missions. Certains d'entre eux sont devenus vraiment costauds à force. Il n'y a qu'à regarder les infos données par leur puce, ils en ont récupéré des bio-boosts. Voilà un peu de quoi est fait mon pays. Dites donc, je me suis pas trompé, vous êtes pas du genre bavard vous. Avec quelques PX, vous pourriez vous acheter des compétences d'élocution ou de bavardage, vous savez. Alors faites une bonne action, vous me payez la prochaine.
En fait, dis-moi, est-ce que c'est pas une musique de jeu de jeu vidéo, de MMORPG cette musique?
Non, pas MMORPG.
RPG tout court?
Oui.
C'est quoi?
Un indice, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Baldur's Gate. C'est la musique de Baldur's Gate, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Et les trois musiques sont les musiques de Baldur's Gate, en effet.
Ah, super.
Ouais, les trois. En fait, j'avais prévu de mettre d'autres choses, puis je me suis dit, oh, tant pis, on va mettre que Baldur.
Tu vas aller à fond là-dedans.
Bah, les couilles, je l'avais jamais fait depuis tout ce temps, j'adore ce jeu et tout. C'est Baldur 1, ça, mais je crois qu'ils reprennent quelques musiques dans le 2. Aussi.
T'avais jamais fait de prendre des musiques de Baldur's Gate?
Jamais de Baldur's
Gate. Sur une chronique, d'utiliser que le son d'un truc?
Non, utiliser que le son d'un truc, je l'ai déjà fait.
Ouais.
Mais d'une seule heure ou d'un seul truc, Baldur's Gate, je l'avais jamais fait, alors que ça s'y prêtait un petit peu, quoi.
Ah, carrément. T'as fait une chronique RPG, je crois. Donc
j'avais fait une chronique sur l'épisode magie,
ouais.
Qui était le, je sais plus lequel c'était. Il date hein, déjà,
pas,
mais
7,
j'avais fait un 6. Truc un peu, ouais, avec des, un petit peu comme ça.
Bah, t'avais fait un truc un peu comme ça, et t'avais fait aussi les augmentés là.
Ah oui, oui.
Et du coup, c'est un peu
le croisement. C'est vrai que c'est le croisement parfait.
C'est un peu le croisement de deux de tes chroniques.
C'est vrai.
C'était, tu sais, avec les yeux qui te permettaient de. L'histoire d'amour, là.
Ah oui, c'était un peu deep, ça. C'était,
ouais.
L'histoire d'amour de.
Comment,
d'un
ça,
mec
ça, comment t'avais appelé ça? Les augmentés.
Ça s'appelait les clairvoyants.
Les clairvoyants.
Les clairvoyants,
voilà.
C'était le nom des pupilles que s'était
voilà,
greffé le mec pour voir les étoiles.
C'est un peu le croisement de cette chronique et de ta chronique, effectivement. Magie, jeu de rôle.
Renvoie au tout premier épisode 3, je crois, pour celui-ci et l'autre, magie.
Peut-être le 6 ou le 7.
Ouais, voilà, renvoie. Il faudrait qu'on apprenne un peu parce que ça aiderait les gens à retourner voir les
épisodes. Il faudrait qu'on mette au tableau, tu vois, ici, là, une liste de tous les
épisodes. On va le faire.
On va déjà se faire des t-shirts avec tous nos mondes.
Attendez, on part en couille encore.
À chaque fois.
C'est clair. N'importe quoi.
On a beaucoup d'idées, mais on n'a pas d'argent.
Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée qu'effectivement, j'aurais aimé que nos vies soient comme dans les jeux vidéo.
Mais de ouf. Mais d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire.
Soit extrêmement cartésien, que c'est genre, ok, il me reste plus que 2 PX à faire pour avoir tel truc et tout.
Et surtout, tu sais que t'as qu'à aller porter des paquets des quelqu'un et tu vas choper tes PX et tu vas pouvoir apprendre à parler allemand. Quoi.
Enfin,
parler allemand. Quelle drôle d'idée de vouloir parler allemand.
Ce qui est assez drôle, c'est que là, du coup, la boucle est un peu bouclée entre la vie et le jeu. Quoi. Parce que là, tu t'inspires du jeu pour refaire la vie et c'est ce que tu dis, j'aimerais bien que la vie soit inspirée des jeux.
Ouais.
Ce qui est drôle, c'est que les jeux sont inspirés de la vie en vrai. Enfin, quand tu prends le. De, soit les jeux de rôle comme ça, les fiches personnages, c'est inspiré de.
Oui, c'est
techniquement
pour,
la vie, c'est juste simplifié pour que ça rentre dans le cadre du jeu. Après, si tu refais l'inverse,
oui, c'est vrai,
fait
c'est vrai que ça part de la vie.
Il faudrait resimplifier la vie. Quoi.
Le mec qui a inventé les Sims, c'est pareil. Quoi. C'était un mathématicien de ouf qui a regardé, il dit OK, le
c'était
principe.
C'était Cédric Villani, je crois.
Ouais. Le principe d'action-réaction, ça te donne ça. Si je fais ce truc-là, ça fait ça. Enfin, il n'y a même pas que dans les jeux de rôle, mais principalement.
Ouais.
Beaucoup de jeux sont inspirés de.
Mais tu vois, autant j'aimerais bien que ma vie
drôle
soit.
Que tu dises ça,
autant j'aimerais bien que ma vie soit un RPG, autant j'aimerais pas du tout que ma vie soit les Sims, tu vois.
Oui.
Genre pas du
bon,
tout.
Après, ça dépend.
Agla, oui.
Agla,
extrêmement
hyper bien le Simish.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais je suis d'accord. Moi, en fait, c'est pour ça que j'ai écrit cette chronique à l'origine, c'est que ça me faisait vraiment, c'était un petit plaisir perso de se dire de fait d'avoir une fiche de personnage avec toutes tes compétences.
C'est clair.
Ça s'appelle un CV, nous, dans notre monde.
Mais à la fois, parce que c'est vrai, tu peux mentir, tu sais même pas.
Ouais, là, c'est un truc qui est connecté à toi, parce que t'as une puce et qui te dit
mais
où
ça,
t'en
j'aime bien ça. C'est parce que tu t'as pas besoin de te découvrir en plus.
En fait, quand tu prends les caractéristiques un peu principales, tu vas prendre la force, l'agilité, l'endurance, etc. C'est difficile de toi. T'as combien en force?
Qu'est-ce qu'il manque? 9.
Non, mais en vrai, qu'est-ce qui manque?
9 sur combien?
En vrai, il manque un barème. Et du coup, ce qu'il faudrait peut-être faire plus que de faire des fiches personnages, c'est permettre aux gens de faire leur propre fiche personnage en donnant un barème. Le barème pour faire ta propre fiche personnage, je sais pas si t'arrives à soulever un tronc, et ben t'es entre machin. Tu vois.
Prenons l'exemple de Donjons et Dragons, ils font ça, ils donnent un barème. Ils disent dans le livre du maître ou je sais pas quoi, je me rappelle plus très bien parce que malheureusement je suis vieux et je ne joue plus à ce genre de jeu.
C'est cela, oui.
Et en fait, en effet, ils disent ok, t'as 8 de force, ça fait, c'est-à-dire que tu fais ça, jamais t'as 12, ça fait ça, t'as 16, tu fais ça.
Bah là, il faut faire l'inverse. Faut faire, si t'arrives à faire ça, t'as
tant de force. Ça. Mais en fait, en même temps, c'est un petit peu les punching balls de Fête Foraine.
Oui, c'est exactement
ça. Oui, non, mais pour la force, c'est assez simple. Mais y a des,
pour l'intelligence, c'est plus dur.
Bah, pour l'intelligence,
c'est pareil, c'est cuit.
L'intelligence, c'est du sudoku. L'agilité, c'est. Il va y avoir des trucs un peu plus techniques. La couture, enfin, genre, si tu parles de tricot,
parce que tu parles de couture, c'est les compétences plus spécifiques.
La dextérité, quoi, en fait. La dextérité, il faudrait pouvoir la quantifier.
Il faut imaginer les fiches de personnages de Donjons et Dragons, quoi. C'est-à-dire que t'as les caractéristiques principales, donc ta force, intelligence, tout ça. Et après, t'as des compétences plus spécifiques qui sont influencés par les...
Appel aux auditeurs, si on a des auditeurs qui sont forts en tableau Excel et en algorithme, en choses comme ça, on aimerait développer le système de barème pour proposer un barème au monde, que chacun puisse se faire sa propre fiche personnage.
Avis aux auditeurs, si vous voulez changer le monde avec
moi. Moi, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas envie de devoir le découvrir ou devoir chercher combien je vaux en force ou un genre de conneries.
Là, tu commences à faire chier.
Ça serait tellement plus simple.
Mais c'est ça, c'était l'idée et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, c'est d'autant plus cool que tu peux t'améliorer facilement.
C'est clair.
En gobant une pilule.
Après, ça peut vite devenir. Comment dire? On peut mettre les personnes qui ont moins de 7 de force dans telle partie de la France ou genre. Bon, vous voyez où je veux en venir.
Je pense que c'est déjà ce qu'on fait un peu en vrai.
Ouais, mais c'est peut-être, mais c'est moins.
Tu veux dire les personnes qui ont moins 6 d'intelligence en PACA, des choses comme ça?
Écoute-moi bien, j'ai des rôles originaux là-bas, donc je te laisserai pas dire ça, Vic. Tu m'entends? Non, j'ai de la famille et tout là-bas. C'est le seul accent que je sais faire. Et encore, quelqu'un de là-bas te dirait que je sais pas le faire.
Hein. Oui, donc, c'est
vrai. Non, c'est quoi, j'aurais tapé à l'inverse, j'aurais dit plus de 14 d'intelligence à Paris.
Oh.
Tu vois, mais par contre, t'as des malus ailleurs, quoi.
Alors qu'aucun n'est parisien.
Genre, t'as 6 en sagesse. Tu vois, t'es dans la merde. Moi, je suis parisien.
Ah, ça va, t'es parisien. Merde, chier.
Et t'as 6 en sagesse seulement parce que t'es un parisien, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais bref, non, c'est pas ça qu'on veut. On rentre dans un débat, c'est pas bon.
C'est Florian qui aime
pas trop. On se lance dans un truc.
Oui, mais voilà, c'est un peu
que tu mettrais pas 1€ dans la cagnotte.
Pourquoi?
Parce que c'est pas politiquement correct de dire que les péons des campagnes, ils ont moins de. Les personnes qui vivent dans les campagnes, ils ont moins de.
Et on vient de gagner 2€ dans la cagnotte.
Alors attendez, parce que moi j'ai jamais dit qu'on mettait les personnes qui avaient plus de force ou moins de force à la campagne. J'ai juste dit on met les personnes qui ont moins de force ailleurs.
Et
Vic a dit.
Je m'en fous, je me casse.
Et Vic a dit les Marseillais, ils ont moins d'intelligence.
J'ai pas dit les Marseillais.
Et toi,
c'est
t'as
toi
dit
qui
les péons de campagne. Donc s'il vous plaît, excusez-moi, c'est vous qui allez mettre 1€ chacun dans la putain de cagnotte.
1€ chacun, désolé, on a perdu.
Merci.
La pile de la cagnotte du politiquement correct.
Ok. Et en plus d'1€, mes excuses aux débiles.
Pas 4€. Pas 4€.
2€.
Non.
Vous emmerde.
Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait avant, qu'on brille comme d'habitude, on a beaucoup de mal à se tenir aujourd'hui. Je pense que c'est le rhum qui est un peu trop rythmé pour
c'est
nous.
C'est possible.
Et ouais, du coup, c'est vraiment moi j'adorerais. Il y a un côté un peu Matrix aussi de se dire de pouvoir gober une pilule et apprendre à faire tel ou tel truc, d'améliorer sa force, juste comme ça.
C'est un peu les capsules techniques apprendre de Pokémon.
Apprendre à piloter
l'hélicoptère. Ouais, c'est carrément ça. Ou les quoi? Apprendre l'hélicoptère, carrément, c'est cool.
Bah, il fait ça dans Matrix.
Ouais, mais
elle fait ça. C'est
pas si pratique que ça. Parce qu'autant tu peux apprendre à piloter un hélicoptère, autant faut-il encore avoir les moyens d'acheter un hélicoptère. Tu vois.
Oui, non, mais si y a un hélicoptère, comme dans Matrix, dans cette scène-là.
Si jamais il y a un hélicoptère qui tombe dessus, t'es content, voilà, on sait jamais quoi. Oui.
Non, mais c'est pas être autre chose. En tout cas, ouais, je trouvais ça intéressant. Et surtout que c'est un peu. Je vais pas dire que c'est crédible. J'aurais pas cette prétention-là, mais c'est dans le sens où un État totalitaire, enfin du moins dictatorial, qui serait un peu pas socialiste, mais qui serait au contraire hyper libéral, et qui dirait plus vous travaillez, plus vous obtiendrez de choses en récompense, bah pourquoi pas.
Ça me rappelle quelque chose, ça.
Bah oui. Bah le colonel Macron.
Non, ça me rappelle, c'est plus Sarkozy là pour le coup.
Oui, c'est kiff.
Oui, non, mais je te parle dans la formulation.
Oui, dans la formulation, ouais. It's getting political, sorry.
Et travailler plus pour avoir plus de PX.
Voilà, c'est ça.
Bah ouais, mais en vrai, tu pourrais imaginer une sorte de le maître, clairement, c'est le maître du jeu.
Le problème, c'est qu'à partir de quand tu définis que telle action vaut des PX? Est-ce que, genre, par exemple, des services rendus à la nation, c'est des PX? Est-ce
si
du coup,
tu sauves un enfant qui est en train de tomber d'un balcon, c'est des PX.
Non, mais ça va encore faire.
Par exemple,
political.
Non, pas du tout. C'est juste, voilà, c'est une action.
Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, je veux dire, si tu dis du bien du parti, etc., est-ce que tu as des PX? Ça peut vite dévier,
seulement
ça peut
si
vite dériver.
Si ta classe de prestige, c'est fonctionnaire, oui. Sinon, non.
Et voilà. J'aime bien l'idée, mais ça peut vite. Dans le monde actuel, ça partira en couille.
Carrément. C'est une connerie, faites pas ça.
Non, faites pas ça, les jeunes. ne prenez pas de PX, surtout pas.
Non, c'était plus un petit exercice mental rigolo, mais de se dire, en tout cas, en termes de prospective, que oui, le transhumanisme pourrait ne pas être que pour les plus riches, mais peut-être qu'il pourrait être distribué de manière un peu plus. Soit au mérite, soit pourquoi pas de manière purement socialiste. On donne. T'es maçon, bah, très bien, on va donner plus de force, je sais pas comment, etc. Pourquoi pas, bref.
Avec un BioBoost, ça fait un peu nom de médicament.
BioBoost, moi je trouve que ça fait.
Vitamine C.
Ça fait, tu sais, comme les vitamines water, des trucs comme ça.
Ah, ouais, moi, ça. Mais c'est un médicament qui existe, moi j'en prends du BioBoost.
Ah bon, d'accord.
Oui, c'est pour agrandir le pénis.
Ah, très bien, ok, d'accord.
Voilà. Ah, d'accord, tout le monde est mal à l'aise, ok, très bien. Ok, on va passer à la chronique suivante, vous êtes d'accord?
Allez.
C'est qui?
C'est moi.
C'est Vic.
C'est Vic, allez. Super Vic. Tu me parles de quoi déjà?
J'interview quelqu'un.
Ah, ça va être sympa. Eh bien, tout de suite, on va t'écouter.
Les vies de Castor Lynch de Nazareth.
Maximilus Night Tsar. Joy Saber Schwartz. T-Rex Dust Rémy.
Jonathan Simple Task Junior 3. Mais tout le monde m'appelle Joe. Enfin, tout le monde qui me connaît. Vous aussi, vous avez qu'à m'appeler Joe. Joe, c'est bien, c'est court. C'est ma tutrice qui m'appelait Joe quand j'étais dans l'Institut des Bébêtes. Ma tutrice, c'était Martha. Martha Amour Deboise. Elle était gentille, Martha Amour Deboise. Elle aimait bien les bébêtes. Alors elle m'aimait bien, parce que j'étais vraiment un gros bébête. Mais maintenant, elle m'aime plus. C'est normal, elle est morte, Martha. C'est un méchant monsieur qui l'a battue à mort. Moi, j'étais là. J'ai voulu la défendre, Martha, mais le méchant monsieur, il n'a pas voulu que je la défende. Et puis, après, il nous a battus à mort tous les deux avec Martha. Mais il n'y a que Martha qui est vraiment morte. Moi, j'étais tout cassé de partout, mais je ne suis pas mort. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas mort, et je ne sais pas pourquoi Martha si, mais je suis là et plus elle. Maintenant, je suis triste pour Martha, amour de Boise. Il n'y avait qu'elle qui m'aimait. Depuis, il n'y a plus personne pour m'aimer.
Dominika Bell Polovic. Ulysse Triple French Premier. Angelo Mars Kaiser.
Bien sûr que j'ai entendu parler de ce mec. Vous me prenez peut-être pour encore plus bébête que j'ai l'air d'être bébête, hein. Mais je le connais, votre type. C'est l'ennemi mondial numéro 1. Alors qui est-ce qui connaît pas ce type d'abord?
Marcel Japanbold. Julian Chaise Nose 4. Erika Owine Nose 4.
Castor Lynch de Nazareth. C'était son nom le plus connu, je crois. Même si maintenant, on n'entend plus parler de lui. De toute façon, des noms, je crois bien qu'il en a eu des tonnes, non? Cassius Amen Mono. Patrick Damwhite, T-Rex Dostremi, Moïse Water, je sais plus quoi. Enfin bref, des tonnes. Ce type, c'était un métamorphe. Et bah comme toutes les saloperies de métamorphes, ils sont pas qu'un seul dans leur tête. Mais lui, son nom le plus connu, je vous dis, c'était Castor Lynch de Nazareth. Comme Jésus, c'est marrant. Surtout pour ce type, le pire de tous les types qui a déjà vécu dans les galaxies. Il fait peur à toutes les espèces. Même les terriens, ils chient dans leur froc quand ils entendent parler de lui. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était une femme. Je me rappelle, elle s'appelait Marisil Sugazer Levy Six. Et elle avait buté, mais plein de gens.
Moïse Watermelon d'or. Léolord Francis Bayard. Antonino El Justiciero.
Bah, heureusement pour moi, hein. Je l'ai jamais croisé, non? Enfin, je veux dire, je l'ai jamais croisé en vrai. Enfin, je crois pas. Parce qu'après tout, on sait jamais si on l'a croisé ou pas, vu qu'il ressemble jamais au même type. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai croisé un type qu'il avait croisé en vrai. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y en a pas beaucoup des types qui ont croisé Castor Lynch de Nazareth en vrai et qui sont encore là pour en parler, à ce qui paraît.
Cheese McVolodine 2. Cassius Amen Mono. Android 457 du Palais Royal.
L'attentat sur le vaisseau d'Andromède? Ouais, je sais, c'était lui. C'était Castor Lynch de Nazareth. Et le type que j'ai croisé, c'était un survivant de la bombe. Je sais pas trop comment il a fait pour être un survivant, vu qu'il n'y avait pas d'autres survivants, mais je lui ai parlé, alors c'est qu'il avait survécu. Il m'a dit que juste avant l'explosion, il avait vu une fille. Une grande fille avec des gros seins qui avait un uniforme d'officier d'Andromède. Il a trouvé ça bizarre le type, parce que ceux d'Andromède, bah normalement ils n'engagent jamais des filles en officier. Sur sa tunique, il y avait son nom, une certaine Amanda Mint Delboros. Bizarre ce nom, Amanda Mint Delboros. Alors elle a zioté un peu la fille de plus près. C'était bizarre, il m'a dit, elle avait pas de points sur le front. Et puis c'est comme ça qu'on les reconnaît, les Andromédiens. Ils ont deux points rouges sur le front. Eh ben elle, elle en avait pas. Alors ça pouvait pas être une officier d'Andromède. Enfin je crois parce que c'est ce qu'il m'a dit le type. Et puis là, il a vu qu'il lui manquait trois doigts aussi à la fille. Eh ben ça, il avait déjà vu des reportages sur Castor Lynch de Nazareth. Et il savait que si le castor, il pouvait changer de forme et tout là, bah il lui manquait toujours 3 doigts. Ça, il pouvait rien y faire. Et puis alors mon type, là, quand il a vu tout ça, ben, il a voulu prévenir les andromédiens que ça sentait pas bon. Mais la fille, là, Amanda Truc, Castor en Amanda Truc, ben, il l'a vu partir en douce. Et ben, le type, là, le survivant, il se souvient de rien du tout après. Il s'est fait assommer par Castor, ou je sais pas, et il s'est réveillé, je sais plus où, quelque part. La bombe avait pété, tout le monde était mort, sauf lui. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider à retrouver ce type, c'est ça? Parce qu'il est le seul à avoir croisé la route de Castor Lynch de Nazareth et qu'il a pas crevé, c'est ça, hein? Et moi, pourtant, je croyais qu'il était mort, le Castor, vu que ça fait un bail qu'il a tué personne. Sa dernière identité, c'était Maximilius Nightstar ou quelque chose. Il y avait eu un carnage encore. Je l'avais vu sur les réseaux, mais depuis, plus rien. Moi, je croyais que vous l'aviez arrêté, le Castor, du coup. Vous l'avez pas arrêté depuis?
Lord Daniel de Danielewski, Tom Kimilov Bakes, Amanda Mint Del Boros.
Ouais, il y en a qui disent ça, ouais. Que c'est le plus grand tueur de toutes les galaxies. Et de tous les temps, même. En même temps, les métamorphes comme lui, ils se sont fait dézinguer par toutes les espèces. Et il n'en reste plus vraiment. Surtout depuis qu'on a éclaté leur planète. Il restait que ceux qui n'étaient pas sur leur planète quand elle a éclaté leur planète. Castor, ça devait être l'un de ceux qui n'étaient pas là pour se faire exploser leur tronche. Il était gamin, j'imagine, à cette époque.
Lisandro Bolt Gerhard Schröper, X-33B GH-212, Patrick Dan White.
Ah, vous savez, moi je suis un bébête, hein. C'est pour ça que je m'appelle Jonathan Simple Task. Faut pas me demander de trop faire des théories comme ça. Mais j'ai vu ça sur les réseaux, comme tout le monde. Le Castor, là, peut-être qu'il était pas comme ça à la base. Les gens, ils disent qu'à force qu'il a changé d'identité, le Castor, il a dû perdre la sienne. Enfin, il a perdu sa première identité, quoi. Celle qui fait qu'il était lui et qu'il n'était pas tous ceux qu'il est devenu après. J'en sais rien, moi, mais si le type, il avait perdu sa première identité, bah peut-être qu'il était en colère, c'est normal. Peut-être que c'est ça qu'il a fait tuer tout le monde comme ça. Peut-être qu'il est à la recherche de qui il était à la base. Peut-être qu'il en a marre de tout le temps changer de qui il est. Peut-être qu'il n'arrive pas à savoir qui il était. Et peut-être qu'une fois qu'il sera redevenu comme il était au début, bah il arrêtera. Vous croyez pas à ça, vous?
Wallace Waterman Warlord. Madame la Présidente Gain. Anonyme.
Bah ouais, peut-être qu'il n'existe pas, en fait, Castor Lynch de Nazareth. Peut-être que c'est des gens qui l'ont inventé quand il y avait des problèmes. Comme Satan ou le Père Fouettard, j'en sais rien, moi. N'empêche que peut-être qu'il existe aussi, le Castor. Peut-être qu'il fait croire qu'il n'existe pas pour qu'on le retrouve jamais et qu'il puisse continuer à chercher qui il est. Peut-être que j'en sais rien, moi. Je suis fatigué. Pourquoi vous me demandez tout ça d'abord? Je comprends pas qui vous êtes, moi. Je suis fatigué. Je suis qu'un bébête, moi.
Caroline Simona Founder. Maricil Shugazer Levi Six. Vinilovic Dissosé.
Bah ouais, je connais lui. Je connais Vinilovic Dissosé. C'était un copain bébête de l'institut quand j'étais là-bas. Gamin. Il a mal tourné. Il a buté le directeur qui avait remplacé ma Martha. Bam! Couper la tête à cet enfoiré de directeur. Il était méchant, le directeur. Il était méchant. Je sais pas ce qu'il est devenu Dissosé, par contre.
Anonyme. Anonyme. Anonyme.
J'ai pas de famille. Ils sont tous morts. Je sais pas où ils sont. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, je veux retrouver ma Martha.
Castor Lynch de Nazareth.
Mais je sais qu'elle est morte, ma Martha. C'était un méchant monsieur qui l'a battue à mort, ma Martha. C'était un méchant monsieur. Il avait 2 points rouges sur le front. Je m'en souviens. Alors je sais qu'elle est morte, ma Martha. Je suis peut-être bébête, mais je suis pas aveugle, moi.
Jonathan Simple Task Junior 3.
Ça, c'est... Enfin, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est le méchant monsieur. Quand il m'a tapé fort après qu'il a tué ma Martha, j'ai perdu les 3 d'un coup. C'est pas très pratique pour manger, mais ça va. Ça va, on s'habitue. Bon, je peux y aller maintenant.
Fermeture du dossier du métamorphe. Jonathan Simple Task Junior 3.
C'est vrai? Vous avez retrouvé le Castor Lynch? Alors il existait vraiment, c'est pas des légendes? C'est bien. C'est bien que vous l'ayez retrouvé, ce type. Ils sont méchants, les métamorphes. Faut le dire à tout le monde, ils vont être contents dehors.
Et alors, en fait, c'était lui, Castor Lynch.
Ouais.
Depuis le début.
Depuis le début, c'était Jonathan le
Jonathan Simple Task.
Ouais, alors les prénoms, il faut s'accrocher. Hein. C'était Jonathan Simple Task qui était Castor Lynch de Nazareth.
Moi, j'en ai chopé. Hein. J'ai chopé Daniel Evski dans le truc.
Tous les noms sont des choses inspirées de gens réels, ils se reconnaîtront, ou de gens de la science-fiction.
Donc Daniel Evski qui a écrit la maison des papillons, là, je sais pas
la
quoi.
La maison des feuilles, ouais.
La maison des feuilles.
J'ai bien aimé. Recommandation à l'année les garçons, la maison des feuilles de.
Monsieur Daniel Evski.
Ouais, c'est Daniel Evski, je me souviens plus de ça.
Traduit par Claro.
Traduit par Claro, exactement.
C'est important de le dire. Et ouais. Du coup, c'était intéressant.
Merci.
Et la fin nous a étonnés. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pourquoi tous ces prénoms étranges et curieux ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais.
Bah, tu les as tirés aléatoirement ou
Bah, je sais pas si du coup vous avez l'histoire vraiment.
Bah, l'histoire,
si, l'histoire
c'est. Florian va nous faire un résumé. Florian, à toi.
J'ai le début, j'ai la fin.
Vas-y.
J'ai le milieu avec pourquoi pas l'attaque du vaisseau où il a croisé quelqu'un qui avait croisé potentiellement Monsieur de Nazareth alors qu'en fait c'était lui.
Ouais.
Et globalement c'est ça quoi. C'est ce monsieur qui est interviewé par la justice ou par la police ou je ne sais quoi. Et qui est censé décrire comment il a rencontré Monsieur de Nazareth ou comment il a entendu parler de Jésus de Nazareth, mais Monsieur de Nazareth.
Castor Lynch de Nazareth.
Castor Lynch de Nazareth. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est.
En gros, les prénoms qu'il y a entre les paroles, c'est toutes les identités de Castor Lynch qui remontent dans le temps, en fait, jusqu'à la dernière. La première, à un moment, il dit.
Ça
remonte dans le temps jusqu'à Castor Lynch.
Parce qu'on sait pas.
On sait pas exactement. T'as des anonymes à des endroits machin. Après, t'as Castor Lynch de Nazareth. T'as un Vinilovitch là qui était en fait un de ses copains bébêtes et qui est la première identité qu'il a pris. Dissosé. Ça, c'était pour Kaiser. Et ça, c'était la première identité qu'il a pris. Et en fait, après, à force de changer d'identité et à poursuivre. En fait, s'il tue les mecs d'Andromède là sur les points rouges, c'est parce que c'était un Andromédien qui avait buté Martha. Et en fait, son enchaînement de violence et de toutes ses identités jusqu'à temps de réussir à retrouver sa première, qui est Castor Lynch de Nazareth. C'est pour ça qu'il tue tout le monde. Il tue des gens qui sont en rapport avec l'histoire de Martha quand elle était jeune, quoi. Voilà.
Et super. Attendez.
Et du coup, au bout d'un moment, il arrive à retrouver sa première identité et il se finit par se faire interviewer. Mais quand il se fait interviewer, en tout cas dans ma tête, je le voyais pas conscient que c'était lui-même. Il ment pas, en fait.
C'est ça que je voulais savoir. Donc en effet, Jonathan Simple Task, c'est sa première identité.
C'est sa première identité. D'accord, Castor Lynch. En fait, tout le monde pense que c'est la première, mais c'en est une à un moment donné. C'est la plus célèbre. C'est la deuxième qui prend, mais voilà, c'est la plus célèbre.
Alors dans ma tête, quand j'écoutais ton histoire, j'avais l'impression que c'était aussi Jonathan Simple Task 3 qui avait tué Martha Amour.
C'est un mec. En fait, c'est un truc qui a déclenché le processus, quoi. Son espèce de schizophrénie.
Et d'ailleurs, c'est un super pouvoir
d'être capable de changer d'identité, ouais. Et juste aussi pour rendre à César ce qui est à César sur la race des métamorphes et sur le fait d'être capable de changer d'identité comme ça, c'est quelqu'un qui a aussi dont on a déjà parlé aussi dans Alien et les garçons, mais qui est Banks. C'est une des races du cycle de la culture de Yann Banks. Voilà. Qui sont une race de métamorphes. Donc, il y en a dans même un de ces 8 bouquins, il y en a un qui s'appelle Orza, qui est le héros, et qui est métamorphe, capable de changer d'identité. Et voilà, c'est inspiré par cette race-là.
Et d'accord. Du coup, moi, je reviens sur les prénoms.
Ouais.
C'est.
Les prénoms, ça aurait pu être Jean-Louis, Patrick Machin.
C'est rigolo.
C'est juste que j'ai pris des noms qui
ils sont un très peu. Mais à eux tout seuls, ils sont drôles.
Ah ouais.
Et en fait, beaucoup, ça m'a rappelé justement vraiment les bouquins de Thomas Pynchon, dont on en parlait un peu parfois. Qui sont souvent ils ont des noms à coucher dehors, quoi. La fille s'appelle Prussia, je sais pas quoi, machin. Et c'était un peu ça, là. Castor Lynch de Nazareth, ça pourrait être un héros de Thomas Pynchon.
Ouais, ça, c'était juste pour ça sonnait bien, je trouve.
Ouais, mais ça.
Au début, il s'appelait Castor Volodin pour un hommage à Antoine Volodin, au auteur que j'aime bien. Mais finalement, je me suis dit que Lynch de Nazareth, c'était pas mal.
Ouais, c'est très bien. Bravo. Très, très, très bon nom.
Et Simple Task, bon, c'était juste pour bien qu'il signifie qu'il était un peu bébête. Ouais.
Exactement. Moi, j'ai une autre question à nouveau.
Vas-y.
Après, j'en aurai plus et je vais me coucher.
Vas-y.
Est-ce que finalement, ce serial killer, là, du coup, qui prend plein d'identités, est-ce que ça se déroule sur 30 ans ou est-ce que ça se déroule presque sur 1000 ans? On peut imaginer que ça dure depuis super longtemps.
Ouais, on peut imaginer que ça dure. Je ne sais pas exactement. C'est dans le futur, à un moment où il y a plusieurs espèces qui. Voilà, c'était pour pouvoir introduire l'espèce des métamorphes. Donc peut-être que dans le futur, on vit 1000 ans ou 100 ans. Je ne sais pas sur combien de temps ça se déroule, mais ça se déroule sur un certain temps.
Quand il prend une nouvelle identité, son âge ne rajeunit pas. S'il a 80 ans, il s'appelle Edouard...
Balladur.
Si derrière, il bascule dans l'identité de Castor Lynch de Nazareth, qu'il a 20 ans, Est-ce qu'il rajeunit? Et du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça serait le plus grand serial killer de tous les temps qui sévit depuis 500 ans? Ce serait drôle aussi.
Ouais, peut-être qu'il pourrait, ouais. pourrait rajeunir. Ouais.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour cette petite histoire.
J'aime bien quand tu fais ça. Oui, peut-être. Oui, c'est possible.
Non, j'ai pas pensé à ce point-là. C'est vrai que, bon, après, ça peut être sympa si ça se déroule sur très longtemps.
All right.
Cool. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est pas extrêmement éloigné ce que je vais vous raconter dans ma
c'est
chronique.
Vrai
c'est ah ouais pas extrêmement éloigné.
C'est pas très Rick and Morty. Hein.
Non, mais il y a une façon de faire comme tu as fait, mais Rick and Morty.
D'accord. Eh bien, écoute, tu nous fais une transition toute trouvée.
Ouais, c'est ça. Je l'avais réservé pour la fin.
Merci, Florence. Sympa. Donc, on va écouter ta chronique tout de suite qui est inspirée de Rick and Morty et du coup, peut-être de la chronique de Vic.
Exactement.
Le voyage dimensionnel de Hagen.
De tous les scientifiques terrestres, Hagen était le seul à voir son vrai potentiel. Avant même la découverte du boson de Higgs, il savait que cette petite particule changerait totalement notre compréhension du monde et de l'univers. Mais pas comme on aurait pu le croire. Certains pensaient que le boson ouvrirait la voie vers une nouvelle physique, telle que la supersymétrie. D'autres pensaient qu'il aurait pu créer un trou noir ou un soleil qui engloutirait la Terre dans une fusion incontrôlable de toute matière existante. Mais personne ne connaissait réellement ce dont il était capable. Personne, à part Hagen, qui voyait dans le boson de Higgs l'opportunité de visiter des univers parallèles. Les années passent, et la communauté scientifique perd petit à petit l'intérêt qu'elle portait pour le boson de Higgs, lui préférant de nouvelles théories et découvertes scientifiques plus sexy, comme la fusion à froid ou le voyage supraluminique. Mais Hagen persévère. Il continue d'étudier le boson et ses applications dans la vie réelle. Ses premières expérimentations se révèlent d'ailleurs être très concluantes. Il parvient à créer un champ magnétique à boucle, derrière lequel il place une batterie de capteurs. Grâce à un canon à photons, il projette ensuite plusieurs particules lumineuses qui traversent le champ, mais ne ressortent jamais. Hagen le sait, il vient de créer le premier portail interdimensionnel au monde. Mais sa découverte est tout de suite décriée par ses pairs. Les scientifiques du monde entier mettent en doute ses mesures et vont jusqu'à douter de ses compétences scientifiques. Pour eux, les découvertes d'Hagen se rapprochent plus de la magie noire que de la physique élémentaire. Par la suite, il ne publiera plus jamais aucun papier. Le scientifique fou s'exile alors dans le pays d'Oc, dans lequel il continue ses expérimentations. Expérimentations qui, la plupart du temps, ratent. Avec des conséquences parfois catastrophiques. On ne compte plus le nombre de fois où les pompiers doivent venir éteindre un incendie dans sa propriété. Plusieurs phénomènes paranormaux ont par ailleurs eu lieu dans la région, avec pour épicentre, toujours, la maison du vieux scientifique. Un matin d'hiver, où le soleil et les habitants du village ne se sont pas encore levés, Hagen se prépare à lancer sa nouvelle expérience. Sur la table de ce qui reste du salon est posée une sorte de télécommande montée sur une crosse de pistolet. C'est son tout dernier prototype, celui qui lui permettrait de créer un portail interdimensionnel de la taille d'un être humain, disons un être humain comme Hagen par exemple. Il entre dans le salon et ouvre les fenêtres, en cas de nouveau départ de feu. Dehors, l'air est pur et sent la lavande, ce qu'il déteste. Il ne supporte pas cette odeur qui le fait immanquablement éternuer. Cette fois-ci ne déroge pas la règle. Au moment d'appuyer sur sa télécommande interdimensionnelle, Hagen se dit qu'il aimerait bien tomber sur un univers dans lequel la lavande n'existe pas. H plus 5 secondes. Le portail a l'air stable. La surface est fluide et transparente. Usuellement, il a le même aspect que dans ses précédentes expériences. Sauf que cette fois-ci, le disque a un diamètre d'environ 2 mètres. Parfait pour pouvoir rentrer dedans. À travers le portail, son salon paraît être le même. Il envoie une sonde au bout d'une corde. H plus 1 minute. Il tire la corde afin de recueillir les données de la sonde. Les paramètres sont bons. L'air est respirable et tout semble normal. L'heure est venue de l'ultime test. Il approche la main de la surface du portail. Le liquide, dont il est composé, est comme aspiré par sa main. Et sa main est comme aspiré par le liquide. De l'autre côté du portail, l'univers parallèle se déforme sous l'onde qui se propage depuis le centre. Elle semble presque vivante. Quelques centimètres le séparent de la surface. Lorsque son doigt touche le liquide, il ne ressent aucune humidité. Il avance. Son bras est désormais complètement de l'autre côté. À ce moment précis, le portail tire presque le corps du scientifique et le projette de l'autre côté. Hagen est désormais dans une réalité parallèle. Une réalité pas si différente cependant. Une fois la nausée passée, il regarde autour de lui et reconnaît plusieurs meubles, quelques livres, et même des tableaux qu'on ne peut trouver que dans sa maison. Il n'y a pas de doute possible, il est bel et bien chez lui. En traversant son salon, il s'aperçoit dans un miroir. Enfin, son lui alternatif. Ce qui le choque au premier abord, c'est qu'il est bien moins ridé que dans sa réalité. Il paraît plus jeune, et pourtant il a le même âge. En témoigne le journal posé sur la table, qui indique la date du jour. Il aime assez bien ce qu'il voit, et il se dit qu'il pourrait bien se plaire ici. Mais il n'était pas préparé pour la suite. Alors qu'il se regarde dans le miroir, se recoiffe et s'apprécie du regard, son corps s'en va, tout seul, sans que sa tête ne le décide. Il ne l'avait pas remarqué, trop occupé à observer ce qu'il voyait, mais c'était comme cela depuis qu'il était arrivé ici. Jamais sa tête n'a demandé à son corps de bouger jusque devant le miroir, de prendre ce journal et de regarder la une, de boire ce café alors qu'il n'en a jamais bu de sa vie. C'est bien lui, il se reconnaît à son grain de beauté, à ses traits caractéristiques. C'est toujours lui dans sa tête aussi, ses pensées, ses souvenirs, mais les deux ne communiquent pas. Il est comme coincé, prisonnier de lui-même. Pourtant, il sent son corps, son vrai corps, comme un membre fantôme. Il sent son bras qui se lève, sa main, la sensation de ses doigts sur le visage. Mais devant lui, devant ses yeux, rien. Il panique, fait les 100 pas, se prend la tête, se demande bien ce qui a pu clocher. Pourquoi sa sonde est revenue intacte? Qu'est devenu son corps s'il n'existe dans aucune réalité? Existe-t-il dans la précédente réalité? Et si c'est le cas, que peut-il bien faire sans son esprit? Qui est clairement ici, là, tout de suite, maintenant. Son agitation interne contraste avec le calme extérieur. Le corps dans lequel il se trouve continue son petit bonhomme de chemin. Il ouvre les fenêtres de son salon pour profiter d'un bon bol d'air pur en buvant son café et en fumant sa clope. À ce moment précis, Hagen sourit. À moitié parce qu'il se rend compte que dans ce monde, la lavande n'a pas l'air d'exister, et l'autre moitié parce que dans sa main droite, il sent la présence de la télécommande interdimensionnelle. Il appuie sur le bouton principal. Il n'est plus chez lui. Il n'a même pas l'air dans le pays d'Oc, mais plutôt dans une ville. Ses mains manipulent ce qui semble être du sable. Elles sont si petites et si rapides. Elles s'approchent tout doucement de la bouche, avec une poignée pleine de gravillons. Dans un mouvement de tête, il comprend alors qu'il se trouve dans un parc. Un parc qu'il connaît très bien. Il habitait dans une rue parallèle, avec sa mère, depuis sa tendre enfance, et jusqu'à ses 15 ans, quand elle est morte. Se pourrait-il que... Tout à coup, il flotte. Des mains le prennent sous les épaules et le portent à hauteur d'adulte. C'était son visage, celui de sa mère. À l'extérieur, il rit, à l'intérieur, il pleure. Devant lui, un lac, calme et plat. Un verre de brandy approche de sa bouche. À l'aspect de ses mains, Hagen doit être extrêmement vieux. Bien plus que dans la réalité. Si elle existe encore, tout est silencieux. Les fenêtres de ce monde s'ouvrent et se ferment de manière régulière. De plus en plus lentement, et de plus en plus longuement. Le battement de son cœur se fait plus rare lui aussi. Au loin, la lumière du soleil brûle désormais ses rétines. Il se sent partir. Un pinceau à la main. Il peint ce qui semble être un paysage bucolique, avec au centre une très jolie femme. Clairement impressionniste, presque pointilliste. C'est joli. Que peut bien cacher cette réalité? Après plusieurs dizaines de minutes de concentration sur une zone du tableau, à tapoter du bout du pinceau, ses yeux se déportent du tableau pour chercher quelque chose. De la peinture, sûrement. Et là, l'horreur. Il se trouve dans un capharnaüm sans nom. Des détritus, des vêtements sales jonchent le sol. Les murs suintent la crasse. Dehors, la lumière est rouge sang. C'en est trop. Il n'en peut plus. Il veut retrouver sa réalité, sa vraie vie. Alors il zappe. Pilote de Formule 1, a priori. Le feu passe au vert. Il zappe. Bibliothécaire, il range des livres qui ont l'air encore plus vieux que lui. Il zappe. Avec une femme, des enfants courent autour de lui. Zappe. Plombier. Dresseur de tigres. Il vogue d'univers en univers, observateur de ces vies qu'il aurait pu avoir dans d'autres réalités mais qui ne sont pas les siennes et qui ne le seront jamais. Handicapé, en chaise roulante. Une femme, blonde, très belle. La peau verte et écailleuse. En métal, des outils à la place des mains. Il voyage comme cela pendant des années, dans le futur, le passé, dans d'autres pays, sur d'autres planètes. Il trouve dans chaque réalité des points communs avec ce qu'il était auparavant. Un simple détail parfois, et d'autres fois, il se serait presque cru chez lui. Mais il le sait désormais, il ne retournera jamais dans son corps, dans sa réalité. Elle n'existe plus. Tout ceci n'est plus qu'un lointain souvenir. Souvenir qui s'effacera bientôt lui aussi. Il ferait mieux d'accepter son sort et de profiter du spectacle. Un jour, alors qu'il vient de passer à nouveau le portail, il est frappé par la banalité de la vie de ce nouveau personnage. Il se lève, à la même heure, tous les jours, va à la boulangerie, achète une baguette et un croissant, retourne chez lui, boit un thé, lit, une heure ou deux. Vers midi, il prépare son repas, puis mange devant un livre. La science des particules élémentaires. Il en est à la page 324. Il le suit comme ça plusieurs jours, comme intrigué par ce qu'il voit. Il attend, sans savoir quoi. Peut-être que quelque chose change. Mais rien. Rien ne change. Alors il appuie sur le bouton. Au moment de passer par le portail, il sent une odeur. Une odeur étrange, et porte la main à sa bouche, juste avant d'éternuer. De la lavande. Il sent la lavande. La main de son hôte se met aussi devant sa bouche. Ce corps. Il le contrôle. Mais il est trop tard.
Et voilà.
Et
voilà.
Et voilà.
Pouh, c'était compliqué, il y avait plein de sons. Hein. C'était pas facile. Hein.
Ce qui est drôle, du coup, je révèle encore un petit peu les dessous du podcast. Vous le voyez pas, parce qu'on lance du coup tous les sons en live qu'on n'a pas entendu avant, qu'on sait pas bien comment ça va se passer. Donc bref, on lance tout ça en live. Et du coup, il y a Florian, en lisant la chronique, qui me fait des signes pour faire des lancements de sons. Et là, c'est vrai que cette chronique était particulièrement...
J'avais un peu l'impression d'être un pilote, un mec sur les pistes d'aéroport.
Du coup, il avait son téléphone dans une main en train de lire sa chronique. Et de l'autre main, il me faisait chef d'orchestre des sons à lancer.
C'était assez impressionnant.
Donc du coup, je suis pas sûr. Au moment où il y a toutes les changements
tous les,
de...
Tous les zappings.
Voilà, tous les zappings. J'ai pas forcément bien suivi avant et après, donc tu vas me résumer un peu.
Tu veux nous faire un petit résumé à base de l'avant?
Non, mais c'était...
J'étais concentré, mais c'était très cool. Moi,
c'était assez
aimé.
Ambitieux et tout, parce que je savais pas si je pouvais le faire en direct, etc. Et c'est pour ça que j'ai préparé pas mal de sons avant, etc. Mais en gros, c'est l'histoire d'un type qui invente un portail interdimensionnel, sauf qu'il traverse ce portail. Il est donc dans son moi alternatif, parce que forcément il est en réalité et tout. Ouais. Il traverse pas avec son propre corps, quoi.
Ouais, il a traverse. Juste l'esprit qui
est...
il contrôle pas le personnage dans lequel il est.
Sauf que ça, il ne s'en rend compte
qu'au
bout d'un moment. Et donc, du coup, un petit peu comme dans Sliders, portail virtuel, je sais plus comment ça va. Je sais pas, t'as pas regardé, Vic?
Les voyageurs des dimensions.
Je sais pas. Bref, un petit peu comme dans Sliders, au bout d'un moment, il a envie d'entrer chez lui, mais sauf qu'il choisit pas où est-ce qu'il va tomber la prochaine fois, tu vois.
Ouais.
Donc, du coup, il se dit, ma seule solution, c'est de zapper le plus possible pour un jour retourner chez moi.
Mais du coup, à partir du coup, je vois le point commun avec le mien, où le mien, il se perdait, il était à la recherche de son identité, mais vraiment la vraie. Et toi, c'est son esprit qui recherche son corps, en fait.
Qui recherche son corps, en fait.
Comme dans Rick and Morty. C'est dans, je sais plus quel épisode, où en effet, il passe de monde en monde.
C'est ça, il fait une espèce de boucle infinie d'univers en univers, quoi.
Mais du coup, comment elle t'apporte des étoiles, là? Moi, je la voyais au début, comme tu l'as décrit, avec le liquide qui attire la main qui attire le liquide, etc. Tu la vois un peu comme la porte de Stargate.
C'est un mélange entre la porte de Stargate et le portail de Rick et Morty.
D'accord. Florian peut pas s'empêcher
de portail.
Tout le temps, Stargate.
J'ai quand même fait attention de pas mettre le sound design de Stargate. Ouais. Par contre, j'ai mis un truc qui aurait pu te faire plaisir, Vic. Je sais pas si tu l'as vu, le bruit de la zapette. Alors déjà, c'est la zapette comme dans Rick et Morty, bien sûr. C'est une télécommande fixée sur une espèce de crosse. Mais le bruit de la zapette, c'est le bruit du flingue de Portal 2. Portal 1 et Portal 2.
Parce que j'allais dire, il y a aussi du Portal 2.
Exactement.
Et Vic aime beaucoup Portal 2.
Ouais. C'est un peu
C'était très cool.
Et
j'ai beaucoup aimé.
Ouais, moi j'ai juste un gros problème avec ta chronique, c'est que tu dis détritus.
Mais en fait j'ai hésité. J'étais stressé.
C'est vrai que ça m'a fait tout bizarre.
En fait j'étais dans mes pensées et tout, et en fait il y a des mots qui ont sauté, ce qui fait que du coup j'ai vu le mot détritus. Et détritus, du coup. Et je me suis dit, ok, je vais prononcer toutes les lettres, je vais pas, tu vois, comme
c'est un empereur romain comme ça.
Détritus.
Détritus.
Con détritus.
Couper la tête de ce détritus.
Mais ceci dit, détritus, c'est quand même bien plus joli que détritus.
Mais je crois que ça peut se dire détritus, non?
Ah ouais, moi il me semble, je crois de l'avoir déjà entendu comme ça, mais pas des détritus.
Tu peux le dire, mais si tu le dis, tu passes pour un tocard.
Oui, bah c'est pas grave, j'accepte, de toute façon je passe après, voilà. Non,
ça fait 18
ans. On est entre amis, non, il y a personne nous écoute, on s'en fout.
Et donc, on est entre nous.
Pourquoi Hagen?
Parce que c'est l'un des mecs
qui sont
le boson de Higgs, exactement.
Okay.
Donc j'ai voulu choisir un
t'as
mec.
T'as un peu regardé ce qui était vraiment le boson de Higgs en détail, etc.
Légèrement, j'étais sur la page Wikipédia. J'ai pas été.
À partir de la deuxième ligne, c'est chaud.
Non, mais effectivement, je me demandais pourquoi est-ce qu'on faisait tout un foin du boson de Higgs et tout. J'avais déjà lu des trucs sur le boson de Higgs, etc. Quoi, mais j'avais pas estimé toute la portée de cette découverte.
Ok.
De là à ouvrir des portails interdimensionnels, je suis pas certain que ça ait ce pouvoir.
Et ah oui, et du
oui,
coup,
c'est vrai que ça passait,
on va pas se mentir.
Ah oui, et si voilà, je retrouve la question que je me posais. Il a donc juste son esprit qui voyage de d'abord son lieu alternatif et après d'autres personnages.
Tout à fait.
En personnage. Du coup, comment il fait pour ouvrir des nouveaux portails ?
Bah en fait, moi, je
l'imagine. Vu qu'il contrôle pas le corps.
En fait, lui, ses yeux sont comme, tu vois, les yeux du corps. Mais ouais. Je l'imagine comme dans une espèce de pièce sombre, tu vois quoi. Comme s'il pouvait se balader dans la tête. Mais
ah,
ça, c'est vraiment moi et ma liberté de création.
C'est l'artiste qui a décidé.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce laïus sur le membre fantôme et tout, comme quoi il sentait encore ses bras qui se levaient, il sentait, tu vois, il pouvait se toucher le visage alors que le corps ne pouvait pas, tu vois.
Ouais, en fait, il n'est pas là, mais il a l'impression d'être là. C'est comme s'il était là, mais il n'est pas là.
Exactement.
Non, c'est une liberté que tu as prise.
Oui, bah, on a le droit.
Hein. Non seulement tu as le droit, mais tu as bien fait.
Exactement.
Si ça se trouve, il y a un type dans ta tête là, parce que le personnage.
Il est coincé.
Il est coincé dans toi.
Ouais. Mais ça me terrifie, ça.
On rejoint un peu...
Vous savez pourquoi ça me terrifie ? Je suis désolé, je te coupe.
Le
ça me
portrait d'Eglingo.
Que... Ouais, c'est vrai. Et ça me terrifie parce qu'en fait, je me dis que, tu sais, dans la religion bouddhiste, on se réincarne. C'est ouais. Ça, hein,
En vrai, c'est les hindous, mais oui.
Les hindous ? Ok, dans les hindous, on se réincarne, tu vois. On se réincarne dans des animaux, etc. Mm-hmm. Et tout, et c'est pour ça que du coup, voilà. Et je me disais, mais moi, j'ai pas envie de me réincarner dans un animal et ne pas pouvoir faire ce que je veux, tu vois quoi. Parce que je m'imagine coincé dans le corps de cet animal ou dans le corps de je ne sais quoi et ne pas pouvoir agir avec mon esprit et ma vision d'homme, tu vois.
Tu n'auras pas ton esprit d'avant, quoi. Par contre, ils expliquent comme ça les sensations de déjà-vu, les choses comme ça, en se disant que c'est une vie antérieure. Mais par contre, t'as pas tout ton esprit, t'as pas tous tes souvenirs d'avant, etc. Sinon, ça serait le bordel.
Ça m'a toujours un peu fucked up et je me suis dit, mais jamais je voudrais ça, quoi.
Ah bah, écoutez,
être coincé dans une fleur, tu vois, et genre, j'en sais rien, ou dans un chat. Ou...
Être coincé dans une putain de fleur. Chier, quoi.
Une fois, mon grand-père était coincé dans un chat, mais c'est parce qu'il couchait avec lui. ça n'a rien à voir et je voulais vous en parler.
Il était pas du tout bouddhiste,
hindou. Non, il était pas du tout hindou, c'est juste que en fait, ma grand-mère était morte depuis longtemps et voilà.
Très bien, bravo.
Voilà. Du coup, vous voulez pas qu'on parle de nos vies parallèles, j'ai bien compris. Alors,
tu voulais dire quoi sur tes vies
parallèles ? Je sais pas, j'aurais pu être sur rigolo, sur tes questions, parce que moi j'ai eu plein de vies parallèles que j'aurais pu avoir, parce que j'ai eu des bifurcations dans ma vie qui font que j'aurais pu
faire autre chose, devenir autre chose et tout. Et toi, tu serais devenu quoi, Thomas ?
Bah, moi, je vous l'ai peut-être déjà dit que j'avais failli travailler dans le jeu vidéo, enfin, j'avais failli faire des études de jeu vidéo il y a 10 ans, plus de 10 ans, et qu'aujourd'hui, je sais pas où j'en serais. Parce que j'étais vraiment à deux doigts, quoi. J'avais signé, il y a Ubisoft qui me voulait, ils n'arrêtaient pas de m'appeler et tout. I want you, motherfucker!
I want you, Tamash!
Yeah.
Tamash!
Tamash! Et du coup, non, mais ma vie aurait été sacrément différente. Voilà.
Bah déjà, on ne serait pas connus, tout simplement.
Et non, et absolument pas. Je dois savoir.
Et d'ailleurs, on ne serait pas connus et on ne serait pas connus.
On ne serait pas connus. Parce qu'on est connus,
tu serais connu.
Ouais.
On se serait connus ou pas, mais on ne serait pas connus.
Voilà.
Parce que tu penses qu'on est connus.
Bah, on a un petit succès. Est-ce que tu disais qu'on n'avait pas d'auditeur ? On a quand même un sacré bon succès.
Non, mais je disais que personne ne nous écoutait parce que je me voilais la face, qu'on était que tous les trois autour de la table et que je ne peux imaginer toutes ces personnes au loin qui nous écoutent dans leur petit casque audio, tout ça, quoi.
Très bien, il fallait le dire. Ok, vous voulez me parler de vos vies parallèles ?
Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre ?
Non, vous ne savez pas ce que ça aurait pu faire. Il n'y a pas eu des embranchements cruciaux dans vos vies ?
Si, clairement, moi j'aurais pu être plombier, mais vraiment, quoi. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts, j'aurais repris la
boîte de papa.
L'entreprise familiale, tu vois, wow. Je serais resté dans la cambrousse à faire de la plomberie et je pense que j'aurais été heureux aussi. Hein. J'aurais pas eu le même succès, j'aurais pas été connu. Peut-être que j'aurais fait, tu vois, j'en sais rien, je sais plus comment ça s'appelle, les mecs qui partent pendant des mois et des mois travailler leur art de la plomberie ou de la menuiserie, je sais plus comment ça s'appelle. Les compagnons du devoir, je crois.
Ah, ils partent, ça existe.
Ouais, ouais, ça existe. Ah, hein, ouais. Ouais.
Incroyable.
C'est eux qui vont reconstruire Notre-Dame.
Par exemple,
wow.
Ça, ils font des trucs comme ça. Ouais. Ouais.
Intéressant. Bah, écoute, on va apprendre. Donc un plombier, un game designer et...
Non, j'ai pas vraiment... Parce que j'ai pas d'embranchement crucial. Et de ça, je pense que ceux qu'on pense être des embranchements cruciaux sont pas forcément. Et c'est plus des... On serait peut-être plus proche de choses que t'as même pas idée. Je sais pas, peut-être que t'as croisé quelqu'un une fois ou t'as pas croisé quelqu'un une fois que t'as failli croiser.
Mm-hmm.
Et que ça aurait vraiment plus changé ta vie que de faire des études. Parce qu'effectivement, des études, rencontrer un tel et rencontrer ma nana.
C'est plus évident, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il suffit parfois d'un truc pour que tu...
Un
truc bête, idiot, un matin tu te lèves pas et en fait ta vie est bouleversée pour toujours l'effet papillon, quoi.
Oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que l'effet papillon, il peut passer aussi par un truc dont t'en as même pas... Et à mon avis, c'est même plus comme ça que ça se passe, par quelque chose dont t'as même pas conscience, quoi.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est vrai qu'une fois, je me suis réveillé une heure trop tard, mais sinon je devenais prophète.
Ah ouais,
ouais.
Pourquoi?
Mais parce que c'est comme ça.
Ok, d'accord.
Prophète, tu veux dire pour la fête?
Voilà, c'est ça, un défenseur de la fête.
Je comprends. Intéressant. Et Pardon, je mangeais du chocolat. Et, bon, je joue carte sur table. Ok, c'est très intéressant. Et on va conclure parce que le temps est déjà bien passé. Bon Dieu de bon Dieu.
Bon Dieu.
Bon Dieu de bon Dieu. Je parle comme un plombier. Oh non, je suis en train de dire ça.
Oui, c'est un euro de plus au moins, je pense.
Et surtout qu'on se dirige droit vers la chose la plus intéressante de ce podcast.
Le quiz.
Qui est le quiz.
Allez, on se fait une petite virgule de conclusion.
Je vais encore me faire éclater.
Une virgule de
conclusion. Je vais prendre un verre de rhum avant de me faire éclater.
Allez, bois un coup, à tout de suite.
Et ça pompe.
Et ça pompe de ouf. Bienvenue dans le quiz de fin d'épisode.
Ouais.
Alors cette fois-ci, Vic, tu disais que t'allais te faire éclater.
Je disais que j'allais me faire éclater. C'est tout à fait exact. Je vais me faire éclater et j'en suis fier.
Et ben non, moi je pense que mon petit doigt m'indique que tu ne vas pas te faire éclater à ce quiz.
Ah bon ?
Et non. Et d'ailleurs, cette fois-ci, pour te laisser une chance, ce n'est pas un quiz de rapidité, c'est un quiz où vous allez répondre chacun votre tour.
Oh, tu sais, c'est pas la rapidité qui me fait défaut, hein. C'est le cerveau.
Mais non, arrête. Sois gentil avec toi-même. Et nous allons commencer directement, comme ça, sans préliminaire.
Très bien.
Avec une question pour toi, Vic.
Donc c'est par rapidité, c'est moi.
Par rapidité, okay. C'est toi. Tu as tout le temps de la Terre pour répondre.
Ok.
Vic, dans quelle ville est né Vic ?
Oh.
C'est-à-dire toi.
Ah, c'est à la fois un quiz où je peux avoir une bonne réponse, mais en même temps, si je donne la bonne réponse, ça veut dire que je me dévoile un petit peu plus.
C'est vrai, exactement.
Exactement. Je suis né à Courcouronnes.
Exactement. Moi, je trouve ça plutôt joli.
Courcouronnes.
Courcouronnes.
Ouais.
Alors, parce que, donc, il faut savoir que c'est un peu complexe et tout. Ce quiz, je l'ai fait il y a pas longtemps parce que j'ai dû demander des informations à des êtres proches de Vic.
En même temps, il y a peu de chances qu'il se trompe. Hein.
Non, bien sûr. Mais moi, je devais le savoir. Tu vois, je devais savoir si
je mitonnais
ou genre de choses. Okay. Et je dis le verbe mitonner, tout à fait.
Très bien, bien sûr.
J'ai dit la vérité.
Tu as dit la vérité. Tu es bien né à Courcouronnes. Et quel joli nom de ville.
Merci.
Où se situe Courcouronnes ?
Courcouronnes se situe dans le sud de Paris.
Ah, d'accord, très bien.
En banlieue parisienne.
Dans le très large. Ah, banlieue parisienne, d'accord, très bien. Thomas, question donc de par rapidité. Dans quelle ville est né Victor Leandro Baggi ? Indice, c'est un footballeur brésilien.
Ah voilà. Voilà où on en est. Eh bah écoutez, c'est facile. Il est né à Manaus.
Eh bah non, pas loin. Il est né à Santo Anastasio, le 21 janvier 83.
Bah je suis con, ouais.
C'est pas de bol. Ça fait donc un point pour Vic et zéro point pour
La
Thomas.
Première fois que je vais gagner, c'est presque une victoire de la honte.
Ah ouais, en fait, je préfère être dans mon rôle que dans le tien là maintenant.
Ouais, bah ouais.
Vic, deuxième question. Quel était le nom du groupe de musique de Vic quand il était ado ? C'est toujours toi. La réponse va vous surprendre.
Téléphone. Non, Larsen.
Larsen.
Oh, comme tous les groupes de
Exactement.
Larsen ou Feedback.
Groupe de lycée.
Tous les groupes de lycée. Bravo. Effectivement, c'est bien la réponse que j'avais sur mon doc. Ça fait donc 2 points pour Vic. Thomas, prochaine question.
Bien sûr.
Quel était le nom du groupe de musique de Victor, le célèbre chanteur de nationalité dominicaine ?
Je cherche pas, on est d'accord.
Tu peux chercher, tu peux essayer de trouver, mais bon.
Est-ce que Victor jouait dans Duran?
Non.
Ok, bah tant pis, je sais pas.
Victor, je pense que c'est son nom de scène. J'espère que c'est son nom de scène.
Ou alors les parents sont blagueurs.
Exactement. Alors écoute, il jouait dans la Nueva Forma en 1973 et dans Flamboyan en 78, qui compte parmi ses succès quand même Mesita de Noche, Ando de Buscando de un Amor, Esasi mi Amor. Trois titres que tout le monde connaît, je crois, autour de cette table.
T'as un joli accent.
Merci beaucoup. Alors, je pense que j'ai écorché tous les noms, mais c'est pas grave. Thomas, pas de points. Pas de points, Thomas. Donc, 2 points pour Vic et 2 points pour Thomas. Ce n'est donc pas de points.
Oui, donc égalité.
Et 0 points pour Thomas. Vic, troisième question.
Ouais.
Comment devait s'appeler le chien de Vic, celui qui s'appelle maintenant Largo ?
Quoi ?
Le chien qui s'appelle Largo. Le chien de Vic qui s'appelle Largo.
Ouais.
Comment devait-il s'appeler à la base ? Il y a eu un vote. Tout le monde a voté pour ce
fameux. Ah, oh là là !
Et en fait, c'est Largo qui a été choisi de manière complètement arbitraire.
Il devait s'appeler Légume. Moi, j'aurais aimé qu'il s'appelle Légume.
C'est pas mal, Légume.
Ouais, je trouvais ça bien.
Mes frères
ont jamais choisi Légume. Et les
ça est cool, j'aime choisi
Largo. C'est quand même surprenant.
Je te comprends, parce que moi, j'avais un chat avant. Je l'avais appelé Place de Clichy.
Ah ouais,
et ma meuf de l'époque l'avait rebaptisé 3 jours après Fantine. Beaucoup moins drôle que Place de Clichy.
c'est un peu comme l'Arsène des chats, quoi.
Oui, c'est vrai. Thomas ?
Oui. Oh, bah vas-y.
Thomas, troisième question.
Ouais.
Comment s'appelle le chien de Victor Chambourg, mon voisin du troisième étage, porte de droite ?
Pépette.
Pas de bol, t'étais pas loin, c'était Kiki. Je me suis
dit, j'étais pas loin.
Potentiellement, c'était la question sur laquelle
c'était
tu pourrais
frère.
Peut-être avoir
j'étais un pas point. Loin, Kiki. Pépette. Mais c'était un mal, Kiki, je suis con.
Et ben, vraiment, pas de bol, ça fait donc 3 points pour Vic et 3 points pour. Et 0 point pour
y
Thomas.
Il pas, hein.
Non, et 0 point pour
gagner
Thomas.
À la fin.
C'est donc,
la fin,
c'est donc une victoire de Vic.
Bravo, Vic.
Ah bah, je suis très content. Bah, je vais le noter dans les. Dans, voilà, dans l'anthologie.
Pierre Blanche. Allez, tu choisis une musique pour la fin de ce podcast.
Qu'est-ce qu'on avait en musique?
Eh ben écoute, on avait.
On n'avait pas de musique. Très... On ta musique première, très non? Ta première, celle de la
musique de l'auberge,
la taverne.
Ah, de oui. La taverne. On, ouais. Peut faire, on peut finir sur une musique de taverne et on pour dire au revoir à nos auditeurs.
Exactement.
Et on se retrouve dans 2 semaines.
On se retrouve dans 2 semaines.
Avec n'hésitez un épisode.
Pas.
Poil.
Ah oui. Ah oui, thématique poil.
Thématique poil.
Et
ça va être proposé sur Facebook.
Ça va être vraiment
au poil.
Ouais. Ça va être. Vous inquiétez pas, on va être très mature. On va être très mature.
Oui, non, moi je pense. Hein.
Moi j'ai commencé ma chronique. Elle est très mature.
Elle est très mature.
Tu me dégoûtes.
Bah, très bien.
T'as commencé, commencé déjà ta chronique, quoi.
Mais pas le choix, tu mets trop vite sur Top Nation, Vic. Il faut se lever tôt le matin. Moi, j'ai ma morning routine. Moi.
En attendant le prochain épisode, s'il vous plaît, likez partout sur Facebook, sur commentez sur Twitter, partagez, faites ce que vous voulez. Laissez des pouces bleus sur iTunes, mettez des commentaires sur YouTube.
Tu mélanges tout.
Tout à fait. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos thèmes, vos propositions de thèmes. Peut-être qu'on la sectionnera, peut-être pas. On verra.
Et voilà, mais il faut essayer pour savoir. Il
n'y
a pas de secret,
c'est la loterie,
les gars.
C'est la grande loterie de la créativité.
Allez, on se dit au revoir. Nous, on va se prendre une petite cervoise et on va voir l'aubergiste et on est bien contents.
Tavernier.
Okay.
Allez, bisous.
Big bisous.
Big bisous.